France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nadia Boulanger fut une protagoniste centrale de la musique classique et savante du XXe siècle. Si elle n'a pas laissé une grande œuvre pour la postérité, son influence ne se résume pas qu'à son enseignement direct. Elle fréquente d'innombrables musiciens et compositeurs. De Fauré dans sa jeunesse à Caudalie et Ducasse en passant par Stravinsky, rares sont ceux qui n'ont pas croisé le chemin de cette figure incontournable du monde musical. Ce sont ses rapports à ces compositeurs que nous compte Nadia Boulanger elle-même dans ce 7e entretien au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, enregistré en 1976. L'occasion d'entendre des anecdotes singulières sur des compositeurs parfois moins connus du grand public, dont Nadia Boulanger a toujours su reconnaître le grand talent. Nadia Boulanger et ses contemporains, donc, dans une émission musicale diffusée pour la première fois le 8 août 1978 sur France Culture.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres, Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, « Elle est la musique en personne. » Saint John Perse.
Je connaissais bien la première Madame Kodály, qui avait 20 ans de plus que lui. Et qui était d'une intelligence exceptionnelle. Quand je suis allé à Budapest, je savais qu'entre-temps, Kodály s'était remarié. Et je me dis, je vais arriver dans cette maison, et mort a disparu. Je suis arrivé, il m'a dit, vous savez, j'ai le bonheur d'avoir cet enfant auprès de moi, mais Emma reste la reine de la maison. Et on mettait encore, c'était un peu pénible, on mettait le couvert d'Emma à la table où nous déjeunions tous. Elle était si intelligente, si merveilleuse, que quand Menuhin a été à Budapest, il s'est fait un point d'honneur d'aller voir Madame Kodály qui était malade. Il est arrivé, il a trouvé quelqu'un tellement fascinant qu'il a été tous les jours la voir. Et elle était très occupée, elle avait 97 ans, elle était très occupée de savoir qui son mari devrait épouser, parce qu'il ne devait pas rester seul. Et alors il lui disait, celle-là, non, je ne crois pas. Elle est un peu égoïste. Celle-là, je ne crois pas. Celle-là. Et puis elle a parlé de la petite orpheline de laquelle ils s'occupaient tous les deux. Elle dit, oh, elle, je l'aime beaucoup, c'est tout. Et quand il avait 80 ans, il a épousé la petite qui en avait 20. Alors il n'y avait aucun sentiment de trahison, de place prise. Il était mort quelqu'un de 97 ans, elle était remplacée par quelqu'un de 20 ans. Et je suis en relation avec Madame Kodály, elle m'écrit de temps en temps. D'autre part, je comprends parfaitement que Madame Pablo Casals se soit mariée. Elle a été une femme merveilleuse pour Casals. Non, je ne suis pas très au courant ni très intéressé. Mais il y a de temps en temps, comme ça, un petit moment de curiosité. D'ailleurs, qui est parfaitement faux, parce que d'habitude, on comprend très mal ce qui arrive aux gens. Le mariage qui m'a paru curieux, c'est celui de Jacqueline Kennedy. Pour ça, ça m'a paru pour le moins curieux. Trop de millions à la clé. Qu'est-ce que c'est qu'un homme qui fabrique des sons? Vous prenez le concerto pour deux pianos de Stravinsky et vous avez une démonstration d'une tonalité, et vous prenez la symphonie de Psaume et vous avez la fin du premier mouvement qui s'arrête sur sol, dominante. Second mouvement qui finit sur mi bémol, troisième mouvement qui finit sur do. Donc, les trois morceaux finissent en établissant. Et le milieu du, le morceau du milieu est fait d'un... Avec quoi ? Qu'il emploie dans le premier mouvement, il fait... Pam, pam, pam. Et tout d'un coup, ça devient. Mais il fait don ciré. Alors on dit, les modernes, c'est empoisonné, ils calculent. C'est-à-dire qu'ils calculent sans penser dans beaucoup de cas. Comme du temps de Bach, on faisait des cadences, toutes les cadences parfaites, et quand il y a eu beaucoup, beaucoup de cadences, d'habitude, vous dormez. Alors ça, c'est excellent, ça vous repose. Et puis, tout d'un coup, vous êtes réveillé du plus profond sommeil, et vous êtes admis dans un monde supérieur. Je me souviens le jour où, accompagnant Paul Ducas chez lui, je lui ai dit, mon cher maître, j'ai besoin de deux de vos matinées. Pourquoi faire ? Ben, pour vous jouer une œuvre qu'il faut que je vous joue, la symphonie de psaume. Bon, et nous prenons rendez-vous. Et puis il s'arrête devant le kiosque des journaux, il me fait un petit signe, je m'arrête. Et il me dit, non, voyez-vous, il est trop tard pour faire de nouveaux amis. Et le hasard, il n'en avait aucune prémonition, le hasard a fait qu'il est mort jour pour jour, 8 jours après. Et c'était tout de même très impressionnant. Et d'autre part, Stravinsky avait fait des calculs pour savoir comment, faute d'un contrat bien rédigé, Paul Ducas avait perdu une grande somme sur les droits qu'il aurait dû recevoir d'apprenti sorcier.
Je pense que Paul Ducas devait connaître l'œuvre de Stravinsky qui
Oui, mais je ne pense pas qu'il s'y intéressait beaucoup.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
Qu'on est d'une époque ou d'une autre, moi je comprends très bien. Je comprends bien que c'est aux mêmes époques. Et ici, je suis bien renseigné, mais je ne suis pas bien pour les dates. Mais je crois bien que c'est en 91 que Brahms a écrit ses œuvres avec clarinette et Debussy, prélude à l'après-midi d'un faune. Ben, c'est difficilement conciliable. Alors, le style de Brahms devait paraître incroyable à Debussy, et réciproquement pour Brahms, le style de Debussy, je crois que c'était impossible. Alors, en ce moment, vous avez une catégorie de gens qui ont tellement peur de laisser passer un chef-d'œuvre inconnu, qu'ils sont prêts, moins ils comprennent, plus ils sont enthousiastes. Et puis peut-être qu'il y a une œuvre que nous prenons pour de l'aberration mentale grave et qui est un chef-d'œuvre. Mais je crois que ça n'arrive qu'une fois dans un siècle.
Oui, donc on se trouvait devant, d'une part, un jeune compositeur, mais très établi. Je parle de la relation possible Ducas et Stravinsky, qui était très établi.
Mais très établi, très établi.
Enfin, il avait eu derrière lui et des scandales. Et
Stravinsky, ça naturellement. Non, mais Stravinsky, ça a passé comme une lettre à la poste. Eh bien, il a donné l'oiseau de feu, il a donné Petrushka, l'oiseau de feu, tout s'est passé très bien. Et puis ça a commencé à devenir très animé, très agité, très fébrile, avec le Norse. Avec même avant ça, tout de suite, ça a commencé. Et puis ça a été jusqu'au bout. Chaque fois, on dit « Quel malheur que M. Stravinsky a perdu la vraie route ». Et puis, il y a beaucoup d'œuvres de Stravinsky qui, aujourd'hui encore, sont inconnues de beaucoup de jeunes musiciens et sont complètement inconnues du grand public. Je ne dirais que « Requiem Canticles ». Alors, j'entends si bien la musique et pas le titre. Traîné. Peu de violonistes jouent le dithyrambe. Peu de violonistes jouent le concerto. Oui. Un artiste original ne peut pas copier. Donc, il n'a qu'à copier pour être original. Alors moi, je trouve que Stravinsky s'inspire d'une technique ou d'une œuvre ou d'une manière d'être et puis il le transforme, c'est sa vie. C'est ce que Luther avait dit de Josquin des Prés. Lui, il est le maître des notes. Et bien, Stravinsky est le maître de ses moyens de composer. Il les emprunte sur la table, à côté, peu importe. Tout lui est bon du moment qu'il sent matière à produire, matière à construire. Thank you. Un jour au restaurant à Venise, sur la terrasse, est parti d'une volée un groupe de mouettes. Et nous avons regardé le groupe de mouettes, le bruit d'elle, comme ça, si frappant. Lui dit, il y en a une qui a une patte cassée. Et à ce moment-là, nous n'avons plus vu que la patte cassée. Mais il l'a vue tout de suite. Alors il passait sa vie à voir, il n'y avait pas de confusion dans son esprit. Stravinsky était un homme libre, par essence libre. Je l'ai entendu employer un argot assez osé, mais je ne l'ai jamais vu vulgaire. J'ai reçu cette année une lettre. Mademoiselle, la vache est guérie. Ma femme est morte. Les arbres poussent bien. Respectueusement. Eh bien, c'était une lettre très vraie. C'est ça qu'il avait à dire. Mais si on lui avait dit que c'était drôle de commencer par « la vache va bien, ma femme est morte », c'est pas du tout qu'il confondait sa vache et sa femme. Il a, sans s'en rendre compte, osé dire ce que d'autres auraient pris des périphrases extrêmement compliquées pour dire ou pour cacher. Dire « je ne peux pas parler de la vache étant donné que ma femme est morte ». Et lui, il dit « mes faits sont là ». La vache est bien, ma femme est morte, les arbres poussent.
C'est la symphonie des psaumes, mais Circus Polka.
Mais oui, quand j'ai quitté la Californie pour aller à New York, où le cirque, je ne sais plus le nom du cirque, donnait la Circus Polka avec les éléphants, ça me dit, n'est-ce pas, vous irez, vous me raconterez. Je voudrais tellement revoir cette... Alors, beaucoup de gens m'ont dit, oh, il est prêt pour faire n'importe quoi pour de l'argent. On lui a demandé de faire une polka, il est prêt à quoi? Il fera n'importe quoi pour de l'argent. Les gens disent, mais il aurait payé pour faire cette circus polka. Ça l'a tellement amusé. Moi, j'étais là quand il l'a composé. Il était dans l'euphorie. Et Mademoiselle Dieudonné, qui a été à un spectacle où on donnait, disait, il fallait voir à l'entracte les éléphants qui tendaient leurs pattes comme une jolie femme tend sa main pour qu'on lui fasse les ongles, pour être maquillée.
Est-ce que c'était un défi pour Stravinsky d'écrire une œuvre comme
ça ? Mais rien, c'était une occasion.
Thank you.
bonheur de savoir écrire. J'écrirai le livre qui probablement ne paraîtra jamais sur Stravinsky, sur la tendresse dans l'œuvre de Stravinsky. Et quand il jouait hier ce duo concertant, je me disais, mais il n'y a qu'à écouter comment il attaque cet accord pour comprendre. Le péremptoire de la personnalité est tel qu'un objet qu'il prenait, vous voyez toujours la main qui prenait l'objet. Vous n'avez qu'à regarder, moi j'ai beaucoup de photostats. C'est bouleversant. Parce que 200 pages de partition, 200 pages, il n'y a pas une barre de mesure moins bien tirée, il n'y a pas une clé moins belle. Alors comment il faisait ses clés? Il faisait pas, nous faisons une clé de sol, piqui-tiqui-tiqui, comme des malheureux. Lui, il faisait, il visait, ting, ting, ting. Et ça fait un signe quand j'ai un graveur ou un peintre à dîner, ou un docteur. Je demande de regarder ses manuscrits pour voir ce que c'est qu'un homme qui contrôle ses gestes, qui peut être un volcan dévoré de toutes les passions et qui établit une rigueur et un ordre tel. Quand il m'a envoyé la première fois la partition de scène de ballet, il était très pressé par le temps, il était en retard. Et c'est Ingolf Dahl qui avait copié les dernières pages. Mmh. Et quand venait la copie d'Ingolf Dahl, bonne copie, ordinaire, bonne, suivant celle de Stravinsky, c'était horrible. Et je me dis, c'est pas possible, il va pas laisser ça comme ça. Et en effet, 3 semaines ou 4 semaines après, il avait recopié ses pages. Un autre jour, j'arrive de Santa Barbara, où j'habitais chez des amis, et j'arrive à Hollywood. Je vois sur le pupitre une des pages de la définitive, la dernière version de la danse sacrale. Mm-hmm. Et c'est malgré moi, je dis, quelle copie, quelle splendeur. Mais il faut que je recommence. Elle dit, vous avez fait un changement? Non, touchez. Oh, j'ai écouté, je ne touche pas les manuscrits, je les regarde. Mais il touchait tout de même. Et il y a un endroit où il avait gratté. Alors le papier était un peu abîmé. Il a recopié toute la page.
Mais qu'est-ce que ça pouvait lui faire?
C'est toute la question. Il ne disait jamais qu'est-ce que ça peut me faire. La page de garde, vous l'avez vu, la page de garde de la symphonie de psaume?
Non, jamais, non.
Il dit, ça m'a coûté plus de travail que toute la copie de la partition. Parce qu'il voulait trouver le moyen de dire que l'œuvre était dédiée pour la Boston Symphony, mais qu'elle était écrite à la gloire de Dieu. Parce qu'on n'écrit pas une symphonie de psaume pour la Boston Symphony. On lui donne l'occasion de la jouer, mais on ne fait pas cette confusion. Quelques années, peut-être, après, moi, je ne me souviens plus, je reçois un câble de Stravinsky. Vient d'être ennobli par le Saint-Père. Vous imaginez ma fierté. Or, il n'a aucun titre. Je crois qu'il a un vague titre d'avocat quand il avait 20 ans. Mais en dehors de ça, en musique, il n'a rien. Il a tout refusé. Mais ça, il a considéré que c'était le grand honneur de sa vie. Et le pape l'avait invité à venir diriger la messe à la chapelle Sixtine.
C'était le 7e entretien avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 8 août 1978.